BFM Business présente les experts de l'IMO, Marie-Cœur de Roy.
Et il est midi sur BFM Business, l'heure des experts de l'IMO. Mais avant cela, un rappel des principaux titres de l'actualité. Cette nouvelle menace de Donald Trump face à l'impasse des discussions avec les Iraniens. Ils ont intérêt à devenir intelligents et vite. Voilà ce qu'a écrit il y a quelques minutes le président américain sur son réseau social, publiant une photo de lui avec un fusil d'assaut et ce commentaire: fini de jouer les gentils. Dans ce contexte et en attendant les réunions de la Réserve fédérale américaine et de la Banque centrale européenne, les marchés restent extrêmement prudents. Le baril de Brent dépasse toujours les $110. Et sur le marché obligataire, la dette de l'État français à 10 ans frôle désormais les 3,75%. La flambée des prix des hydrocarbures qui bénéficie aux géants du secteur. Total Energy publie aujourd'hui un bénéfice en très forte hausse pour son premier trimestre. Il atteint 5,8 milliards d'euros, soit plus de 50% de plus qu'il y a un an. Le groupe annonce dans la foulée une hausse du dividende qui sera versée aux actionnaires. Allez, c'est l'heure des experts de l'IMO.
Regardez toutes vos émissions en live ou en replay. Restez connectés à l'actualité économique en téléchargeant l'application BFM Business.
Votre programme avec Bien Ici.
On est bien ici.
Trouvez votre futur logement par vie de quartier et temps de trajet sur bienici.com.
BFM Business présente les experts de l'IMO, Marie-Cœur de Roy.
Et les experts de l'IMO, c'est tous les jours à l'heure de votre déjeuner, une demi-heure, pour parler de votre immobilier, de vos logements à l'antenne de BFM Business. Et ça démarre par cette séquence qui vous concerne, amis professionnels de ce secteur de l'IMO, et qui nous concerne aussi, consommateurs de cet immobilier, de ces logements, le pro de l'IMO, des témoignages terrain de vos métiers. Et aujourd'hui, on va parler de ces papas et de ces mamans solo, parce que eux aussi achètent des maisons neuves, et ils ont bien raison de le faire, vous allez voir ça dans quelques instants. Ensuite, retour en plateau pour le débat du jour. Et aujourd'hui, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas parlé. Focus sur cet habitat intergénérationnel. On mélange les seniors, les juniors, les intermédiaires. Et ça fait quand même une cohabitation hyper vertueuse. On verra ça dans quelques instants. Allez, d'abord, c'est l'heure du pro de l'IMO.
Les experts de l'IMO, le pro de l'IMO.
Et on est en ligne avec Antoine Blanc, le directeur commercial Hauts-de-France d'Exaome. Bonjour Antoine.
Bonjour Marie.
Et je le disais, on va s'adresser à tous ces papas et ces mamans solo. Ils sont de plus en plus nombreux, on les salue. Bienvenue dans le club. Ils sont aussi très attachés à l'idée d'avoir une maison neuve, qui plus est, a priori, vous bossez pour Exaome. Et vous avez de plus en plus d'exemples de ce type, de ces parents solo qui ont quand même cette envie d'avoir cette maison neuve. Parce qu'en plus de ça, non seulement c'est confortable, mais en plus c'est économique.
Tout à fait. Comme vous venez de le préciser, on a de plus en plus aujourd'hui de clients qui nous sollicitent et afin de faire construire et de pouvoir faire l'acquisition de la maison, mais sur une configuration un peu différente du schéma qu'on a pratiqué pendant des années avec les familles biparentales. Mais ouais, de plus en plus de parents solo. Aujourd'hui, c'est 26,5% de nos acquéreurs, avec une progression quasiment de 5% en deux ans. Donc c'est vraiment une tendance qui est de plus en plus forte pour nous.
Attendez, je vous interromps, 26,5%, c'est des parents solo ?
Un acquéreur sur quatre, tout à fait.
Wow.
Ouais. Aujourd'hui, nous sollicite pour faire son projet, malheureusement, dans un cadre un peu différent de ce qu'on a pu connaître pendant de nombreuses années.
Ouais. Alors, vous dites malheureusement, mais enfin, quand même, là, l'exemple dont vous souhaitiez nous parler, on est quand même sur une maison, quand même. Parce que fut un temps, je me souviens, là, il y a quelques années, au moment de la crise inflationniste, pas celle-là, celle de la guerre en Ukraine, vous en souvenez, vous aviez tendance à construire des maisons un petit peu plus petites, compte tenu des coûts des matériaux, de la réglementation environnementale, des moyens des Français qui étaient un peu contraints par rapport à la hausse des taux d'intérêt. Là, pour le coup, on est sur des maisons. Bon, j'ai envie de dire pour une Parisienne, très très confortable.
Oui, oui. Alors après, le schéma national est peut-être pas celui de la région parisienne. Maintenant, c'est vrai qu'on vend en moyenne des maisons d'une centaine de mètres carrés, comme dans l'exemple ici qui peut être repris. Un papa aujourd'hui qui a rencontré des difficultés en 2021, qui s'est séparé malheureusement, et puis il a souhaité, dans tous les cas, redevenir propriétaire de sa maison individuelle. Il a fait quelques petits sacrifices avec deux années de location pour pouvoir se rendre de nouveau éligible au prêt à taux 0% et reconstituer une partie de son épargne. Mais grâce à cela, ça lui a permis aujourd'hui de reconstruire une nouvelle maison. On devrait livrer normalement pour cet été et puis il va pouvoir re-offrir à sa fille un cadre de vie comme elle a pu le connaître sur leur première maison familiale.
Antoine, en régie, Alban, notre réalisateur qui est toujours partie prenante de nos échanges sur ce sujet logement immobilier, il me dit « Oui, mais là, c'est un papa. Est-ce que ça aurait été la même chose pour une maman ?»
Bah, je pense qu'aujourd'hui, ça aurait été exactement la même chose pour une maman, hein, puisque la capacité aujourd'hui à financer, elle est propre à la rémunération que ce monsieur a pu dégager. Je pense qu'une dame, aujourd'hui, est tout à fait en capacité à pouvoir faire la même chose. Le cadre, il a été fait. Et puis l'exemple aujourd'hui, il est sur celui de ce papa, mais on a même cas de figure pour des mamans aujourd'hui qui nous sollicitent dans les mêmes circonstances et qui ont le même souhait, c'est de devenir propriétaire de sa maison individuelle. Je pense que vous en avez parlé un peu en préambule. On a connu un climat avec la période post-Covid et surtout un peu avant Covid avec les confinements où ça n'a pas été évident pour beaucoup de familles. Et le fait aujourd'hui d'avoir sa maison, d'avoir son jardin, ça reste le rêve de tous les Français. Que ce soit une famille biparentale ou monoparentale, le rêve, il reste le même.
Ah ben moi, je le répète souvent, hein, tous les gens qui crachent sur la maison, c'est souvent des gens qui sont déjà propriétaires d'une maison, donc ça me fait à chaque fois doucement rire. Non, un dernier mot quand même, parce que j'évoquais d'un mot ce qui s'était passé au moment de la crise inflationniste liée au déclenchement de la guerre en Ukraine. Vous bossez chez Exahome, j'ai forcément une première question à vous poser, et ça sera ma dernière, sur les effets de ce qui se passe en ce moment avec la guerre au Moyen-Orient. Est-ce que vous voyez quelque chose qui se passe sur votre marché de la construction de maisons ?
Il y a peut-être un petit peu d'attentisme de la part de nos clients, parce que forcément le climat géopolitique il reste délicat. Maintenant, on est toujours sur un marché dynamique. Comme je vous l'ai dit, les gens veulent de leur maison, veulent de leur individuel. Après, nous, on s'adapte. Hein. Vous avez parlé de maisons un peu plus petites. C'est sûr qu'on a aussi structuré des offres pour pouvoir répondre à ces clients qui ont besoin d'acheter avec peut-être des configurations qui sont différentes de ce qu'on a connu il y a quelques années. Mais dans tous les cas, on reste sur une bonne dynamique. On accompagne nos clients dans leur projet de construction, et puis on sera toujours force de proposition pour qu'ils puissent aboutir à leur rêve qui est d'avoir leur maison individuelle.
Et puis on le rappelle, hein, vous avez le droit encore au prêt à taux zéro hein, si vous voulez acheter une maison.
Tout à fait, ouais. Tout à fait.
Donc c'est quand même important de le dire. Plus les prêts bonifiés qui existent encore, je ne sais pas pour combien de temps, chez certaines banques quand on achète des logements performants. Donc justement, c'est peut-être, entre guillemets, je vais faire mon agent immobilier, mais c'est peut-être le moment d'acheter en fait.
C'est toujours la bonne période et il faut profiter malgré tout. Et malgré tout ce qu'on peut penser, il faut maintenir ses projets, il faut accompagner ses projets. Et on sera toujours là pour accompagner nos clients et aboutir à cette concrétisation de pouvoir devenir propriétaire de sa maison individuelle.
Eh ben merci Antoine pour votre témoignage. Antoine
Avec
Blanc,
plaisir.
Le directeur commercial Hauts-de-France chez Exahome. Si comme Antoine, vous avez des témoignages terrain à nous apporter à l'antenne de BFM Business, ça tombe bien, on a une adresse mail, lesexpertsdelimo@bfmbusiness.fr. Allez, c'est l'heure du débat.
Les experts de l'IMO, le débat.
Et à mes côtés, Nicolas Brunet, directeur général délégué de Maison Marianne, et également Stéphane Briand, le directeur commercial de Pulsim. Bonjour à tous les deux.
Bonjour Marie.
Bonjour Marie.
Et je le disais en préambule, aujourd'hui on va reparler, on n'en parle pas assez souvent, on en parle régulièrement, mais pas assez souvent, de cet habitat intergénérationnel. Alors c'est un peu moche quand on le dit, mais l'idée c'est quand même effectivement de mélanger des jeunes et des moins jeunes pour créer un habitat finalement mixte et avec lesquels il peut y avoir aussi de l'entraide. Alors d'abord, je voudrais que vous me le décriviez, vous, chez Maison Marianne, Nicolas, parce que c'est votre métier. Donc, de quoi on parle ? Quand je le dis comme ça, c'est un résumé grossier ou c'est assez fidèle ?
C'est assez fidèle, Marie. Donc, chez Maison Marianne, on a une conviction, c'est que nous devons accompagner les populations qui sont aujourd'hui en situation d'isolement. Donc, vous en avez parlé. Les seniors, on a une courbe démographique qui fait en sorte que la population vieillit, que la part des plus de 65 ans va bientôt dépasser celle des moins de 20 ans en France.
Vous me le disiez, c'est pour 2030, ça ?
Pour 2030, wow. Oui, donc c'est demain, effectivement. On a également beaucoup de jeunes actifs qui ont des difficultés à trouver un logement et qui travaillent, qui ont des revenus, qui ont des ressources. Et on voit aussi une augmentation du nombre de familles monoparentales.
Bah ouais, on en parlait parce que c'est ce que j'allais dire, ça aussi... Il y en a pas mal chez Maison Marianne.
Il y en a pas mal chez Maison Marianne. Donc nous, on existe depuis 17 ans. On connaît bien ces problématiques. On les a travaillées les 15 premières années, j'allais dire, de manière indépendante. Et puis, on a rejoint un groupe qui s'appelle le groupe Atland, qui est un opérateur global de l'immobilier, qui a plusieurs filiales, dont Maison Marianne, mais aussi une plateforme digitale de financement qui s'appelle Fundimo, un promoteur qui s'appelle Néolieu Atland, et puis des véhicules d'investissement qui s'adressent à la fois aux particuliers ou aux institutionnels, avec Atland voisin et Atland, pur investissement.
Pur jus. Juste avant, justement, de faire rebondir Stéphane, concrètement, comment je rentre dans une résidence intergénérationnelle, comme on appelle ça ? Est-ce que je peux candidater ? Ça se passe comment, en fait ?
Oui, tout à fait, Marie. Donc, nous, le modèle, on l'a développé d'abord auprès des bailleurs sociaux. Donc, notre intervention, elle consiste à accompagner un promoteur immobilier qui va être soit à ton néo-lieu au sein de notre groupe, ou bien un promoteur classique, ouais. Sans les nommer, les Cogedim, les Nexity et autres, qu'on accompagne dès la conception avec un cahier des charges technique qui va permettre de penser des logements adaptés au vieillissement ou au handicap. On va plus loin qu'un cahier des charges techniques, sans être trop coûteux, parce qu'on sait que les coûts de construction, c'est le nerf de la guerre. Ouais. Et puis surtout, on va avoir au rez-de-chaussée des espaces partagés qui font à peu près 100-150 mètres carrés, qui vont être très qualitatifs, avec un aménagement et une décoration très soignée, et qui vont permettre de développer des programmes d'animation, qui vont permettre de développer également des services qu'on va proposer aux habitants et aux résidents.
Mais en gros, si vous voulez, ça veut dire que moi, si je suis éligible à un logement social, je peux candidater, c'est ça à peu près l'idée.
Oui, tout à fait, c'est les mêmes conditions d'accès, c'est du logement social, hein, donc auprès d'un bailleur, il faut déposer sa candidature. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a 2,8 millions de demandeurs de logements sociaux, donc en France... Et on voit
je crois que c'est même ménage, parce que si c'était que des demandeurs, ce serait pas Temas, au final. Oui. Ça qui est terrible.
Donc, on voit que la demande est vraiment très importante. Ouais. Et donc, ce secteur-là, pour nous permet de nous exprimer, même si il y a un ralentissement depuis l'augmentation des taux d'intérêt. Ouais. Les bailleurs sociaux sont concernés par ce contexte-là et doivent faire des choix entre les investissements qu'ils doivent faire sur la réhabilitation de leur parc ou bien sur la construction neuve. Et aujourd'hui, la construction neuve en pâtit un peu de ce ralentissement. Et de toute façon, nous, notre modèle aujourd'hui, il est mûr pour aller sur d'autres terrains et notamment porter ce modèle vers du libre ou de l'intermédiaire dans les grandes métropoles en France.
Et c'est là où je regarde Stéphane. Parce qu'effectivement, le truc, c'est qu'à un moment donné, il va falloir trouver des gens pour investir dans ces bâtiments, pour qu'ils puissent voir le jour, pour que cet habitat intergénérationnel voit le jour. Et franchement, je ne suis pas sûre qu'il faille qu'on passe des heures sur l'intérêt du truc. La question, c'est comment je fais pour investir là-dedans, en fait.
L'idée, ce qui est quand même intéressant, c'est qu'on parle souvent d'investissement. Là, c'est un investissement qui va répondre à des enjeux sociétals qui sont aujourd'hui majeurs. C'est-à-dire qu'on est tous concernés. Je pense que tout le monde a en tête que la France vieillit, avec notamment l'allongement de l'espérance de vie. On a aussi la crise du marché immobilier qui touche quand même beaucoup, en tout cas, nos jeunes actifs ou nos étudiants. Et c'est vrai que cette résidence intergénérationnelle permet, je dirais, de répondre à ces enjeux, sans oublier, en effet, la partie isolement de nos seniors, qui est un vrai enjeu. C'est 6 millions de Français qui sont concernés. Donc, pour une fois, en tout cas, on va mélanger l'investissement avec une approche quand même certes financière, mais
aussi sociale et responsable.
Et ça, c'est quand même intéressant. Et si on parle maintenant concrètement du fonctionnement, on le retrouve, et je sais qu'on a déjà parlé ensemble, Marie, au travers de ces résidences de services gérés. Pour rappel, on va retrouver de catégories étudiants, tourisme et affaires, seniors ou encore EHPAD, donc avec un corps médical. Et c'est vrai que de plus en plus maintenant, on voit ces nouvelles résidences dites hybrides, où on va avoir initialement une mixité qui est assez intéressante, et tout se fait au travers du fameux statut LMNP, donc le loueur meublé non professionnel, qui est quand même intéressant et qui se calque assez bien à ce type d'investissement.
Alors, juste rapidement quand même, reparler de ce fameux LMNP, je ne sais pas si on l'a dans le lexique, mais voilà, est-ce qu'aujourd'hui c'est encore attractif, puisque tout le monde nous en a parlé à chaque débat budgétaire, on nous explique, oui, mais investir en LMNP, c'est de moins en moins intéressant, etc.
Ça l'est toujours et ça le restera toujours. C'est quand même un vieux statut, l'un des plus anciens.
Et d'autant qu'en plus, il me semble que typiquement, en ce qui concerne ces résidences-services gérées, etc., pour le coup, je ne crois pas que le législateur y ait touché.
Non, du tout. C'est pour ça qu'on est encore sur l'ancien modèle qui fonctionne très bien. En fait, il y a quand même deux particularités. On est sur le statut LMNP classique que tout le monde connaît, avec notamment les deux régimes fiscaux, à savoir le micro-BIC. Exactement, bénéfice industriel et commercial ou le régime réel. Donc soit on a un abattement de 50% sur les loyers perçus, soit auquel cas on peut déduire du loyer l'ensemble des charges s'il y a un emprunt.
Système d'amortissement.
D'abord les charges financières, ensuite les charges d'exploitation et ensuite en effet la partie amortissement. Donc ça n'a pas changé. Ce qui est aussi intéressant si on l'applique à ce type d'investissement, c'est que on va travailler non pas avec des locataires en direct, ça peut être le cas, mais bien souvent on va plutôt travailler avec l'exploitant qui va lui s'occuper de gérer la résidence et ce au travers d'un bail commercial. Est quand même intéressant, puisque tout va être encadré, le montant du loyer, la notion de charge et de travaux, et qui plus est, on est aussi sur une durée longue d'investissement, puisque la durée moyenne d'un bail, c'est entre 9 à 11 ans. Donc c'est vrai que le schéma fiscal fonctionne très bien, puisqu'on vient quand même neutraliser la fiscalité sur les loyers perçus, et qui plus est sur une durée assez longue, ça peut être 20 ou 25 ans, et qui plus est, avec ce schéma au travers du bail commercial, on vient quand même solidifier et consolider, je dirais, l'investissement pour le propriétaire.
Quand vous entendez ça, Nicolas, vous ne dites pas qu'il faudrait aussi que les particuliers puissent investir spécifiquement dans Maison Marianne ?
Alors, le modèle aujourd'hui, il est mûr. Peut-être pas encore aujourd'hui pour permettre tout de suite à des particuliers de venir. Là, actuellement, on a des discussions avec des établissements bancaires, des institutionnels qui pourraient acheter, et c'est notre objectif en bloc, des maisons Marianne. On a ce recul. On a aujourd'hui plus d'une cinquantaine de résidences à l'échelle nationale qui fonctionnent avec des propriétaires bailleurs sociaux qui nous font confiance, qui nous suivent, qui nous versent une redevance annuelle, parce que faire fonctionner une résidence intergénérationnelle, ça a aussi un coût.
Bah bien sûr, ouais.
On a une structure associative, Marianne Solidarité, qui a un salarié qui est présent en moyenne 2 jours par semaine pour faire des choses lui-même ou coordonner d'autres intervenants. Donc aujourd'hui, notre objectif à très court terme, c'est d'aller sourcer des localisations dans les grandes métropoles, de faire venir à nos côtés des établissements bancaires. Et je pense que l'étape suivante sera effectivement...
Les particuliers.
D'arriver sur les particuliers, et on espère le plus rapidement possible.
Messieurs, j'ai quand même une question. Pourquoi ce serait un segment, cet habitat intergénérationnel, plus intéressant, plus prometteur, je vais mettre de gros guillemets, que les résidences-services qui peuvent exister aujourd'hui, qu'elles soient spécifiques sur les jeunes ou spécifiques sur les personnes âgées?
En fait, on le voit déjà par typologie de catégorie. Typiquement, les résidences seniors aujourd'hui fonctionnent quand même nettement moins. Et c'est ce qui fait que les résidences étudiantes aujourd'hui sont quasiment la classe d'actifs préférée des investisseurs. On a des petites enveloppes et un ticket d'entrée dans l'ensemble assez accessible. On a des rendements qui sont cohérents, ce qui n'est pas forcément le cas sur des résidences EHPAD ou dites seniors. Ne pas oublier que les résidences EHPAD, bien souvent, on est perdu au fin fond de la campagne. Avec les petits oiseaux, c'est très bien. Mais on n'a pas...
Dépense.
On n'a pas un actif qui a une réelle valeur. Tandis que ce n'est pas le cas sur les résidences seniors, mais qui coûte un peu plus cher. Donc c'est vrai que cette mixité offre un élément, je dirais, nouveau pour les investisseurs.
Nicolas ?
Je rejoins tout à fait l'analyse de Stéphane. Nous, Maison Marianne, on est entreprise à mission. On a une volonté, c'est d'avoir un impact social d'abord auprès des bailleurs sociaux qui sont nos clients historiques, mais aussi maintenant auprès d'un autre segment de la population. Les résidences seniors services dont parlait Stéphane, c'est un produit qui s'adresse à 5% de la population. Il faut être capable de payer plus de 2000 euros par mois de surface, même s'il y a les services en face. Et aujourd'hui, depuis quelques années, avec la remontée de taux d'intérêt, etc., ce modèle, il est
l'équation budgétaire n'est plus là.
Il est bloqué, il est bloqué. Bon, donc nous, ce que l'on souhaite faire, c'est maintenant maintenir notre activité aux côtés des bailleurs sociaux, donc ils pourront investir, mais aussi aller vers un marché dit intermédiaire, avec des niveaux de quittance de loyer qui sont entre le logement social et le logement
libre. C'est de l'intermédiaire pour que l'équation, là aussi, tienne encore la route. Parce qu'à ce rythme-là, elle ne tiendrait plus, la route, là ?
Je pense qu'aujourd'hui, elle peut tenir la route. Stéphane en parlait, il nous faut un modèle qui puisse accepter les coûts de construction, les coûts d'exploitation. Il faut quittancer les loyers, il faut déployer les services, il faut absorber nos coûts d'intervention Maison Marianne dans la durée du projet. Et aujourd'hui, on a l'oreille, on a les coûts d'établissements bancaires qui sont prêts à revoir leurs prétentions sur les taux de rentabilité, alors de manière plutôt marginale, mais voilà, plutôt que d'attendre du 7-8%, on peut avoir des discussions sur des niveaux de 6 ou 7% de rentabilité, et ça, c'est aujourd'hui tout l'exercice que l'on mène, et on commence aujourd'hui à sourcer des dossiers, quelques-uns dans l'ouest parisien, sur des communes bien placées, attirer effectivement les investissements.
C'est un point qui est intéressant, parce que là, on parle de rendement, mais si maintenant on s'intéresse sur la partie rendement pour l'investisseur...
Ouais, c'est ce que j'allais dire, parce que là, on parle pour les gros qui investissent, que ce soit les bailleurs sociaux ou demain, les grands institutionnels.
Forcément, on est sur d'autres catégories, mais si on parle de l'investisseur classique, le particulier, en moyenne, on oscille entre 3,5% et 6,5%.
Ça reste raisonnable et plutôt alléchant quand même, parce que on rappelle que plus le rendement affiché est élevé, plus les risques pris sont aussi élevés.
Là-dessus, vous avez raison, Marie, comme souvent, mais il y a toujours cette notion de rendement brut et de rendement net.
Ouais.
Afficher un rendement brut à 12%, si in fine, avec l'ensemble des charges, on arrive à 3 net, ça n'a pas de sens. L'avantage de ce type d'investissement, c'est que les charges sont dans l'ensemble assez bien maîtrisées et contrôlées. Il arrive même parfois que ce soit l'exploitant qui prenne à sa charge la taxe foncière, les frais, les différents frais copro et autres, ce qui fait que finalement ce rendement brut se transforme quasiment
il est maximisé,
en rendement net. Donc ça, c'est quand même un point important. Donc non, ça reste ça reste cohérent. Il y a encore l'effet de levier, il y a la notion du statut de l'AMNP, donc ça plaît. Et surtout, ticket d'entrée, alors c'est vrai qu'il y a la notion du neuf et de l'ancien. L'ancien, ce qu'on appelle le marché secondaire, donc des personnes comme vous et moi qui cherchent à revendre leur bien. Mais en moyenne, on est sur un ticket d'entrée, notamment sur l'étudiant, entre 60 à 120 000 euros.
Et là, sur de la résidence intergénérationnelle, alors j'ai vu qu'il y avait quand même... Ça existe quand même par endroit. Oui. J'ai vu notamment, vous citiez Next City, mais il me semble que Next City a une offre là-dessus. Donc,
ça dépend, forcément, l'environnement et la localisation est importante.
L'emplacement.
On sera plutôt entre 100 à 150 000 euros.
D'accord.
Là, on va être plutôt sur du neuf. Il n'y a pas encore vraiment de marché secondaire. D'ailleurs, c'est intéressant. Si on regarde aujourd'hui l'ensemble des résidences-services, mais plutôt orientées médicales et EHPAD, c'est à peu près 600-700 000 places. Si aujourd'hui, on regarde, pour le moment, parce que c'est quand même nouveau, ces résidences dites hybrides, on est pour le moment à 100 000 places. Donc, ce qui est aussi intéressant, et ça, c'est pour les investisseurs...
Ah, ça veut dire qu'il y en a sous le pied aussi.
Voilà, il y a un marché profond et ça vaut le coup de s'y intéresser, d'y aller.
Alors, messieurs, il y a quand même aussi un autre sujet qui est celui de la réversibilité du bâtiment. Moi, je sais qu'il y a eu un gros sujet, notamment sur les EHPAD. C'est-à-dire qu'une fois que, si en plus, l'exploitant, bye-bye, qu'est-ce que je fais après des lieux, comment je le transforme, etc. Donc, est-ce que là, sur ce profil d'habitat intergénérationnel, on est sur quelque chose d'aménageable, d'adaptable en fonction des marchés, du marché demain, dans 10, 20, 15, 30 ans?
Si on fait le lien avec les EHPAD, oui. Parce que ce que j'en parlais tout à l'heure, la problématique des EHPAD, c'est qu'on est sur un actif qui ne vaut quasiment rien. Et en plus, il y a un corps médical important, c'est qu'il y a beaucoup d'espaces qui sont prévus pour accueillir ce corps médical. Donc, ce qui fait que transformer ce type de résidence est très compliqué. La revente l'est tout autant, puisqu'on est perdu au milieu des champs. À l'inverse, une résidence étudiante, généralement, on est quand même très bien situé, en cœur de ville, proche des campus universitaires. Donc, il y a quand même peu, je sais plus la surface exacte, Nicolas, que tu stipulais en matière d'espace partagé et commun entre
150,
les
150.
Donc, ça reste, 150, ouais. Ça reste facilement réutilisable et réemployable. Et en plus de ça, on est vraiment sur une résidence, donc un actif qui est extrêmement bien situé et qui a une vraie valorisation.
Justement, voilà, Nicolas, j'aimerais bien que vous me parliez un peu du profil type de vos résidences, en fait. Ça ressemble à quoi?
Alors, on est sur des résidences qui font 50 logements minimum à 80, une centaine pour les plus grosses, avec des typologies de plutôt petite taille, beaucoup de T2, un peu de T3, peu de T1, parce qu'aujourd'hui, la demande n'est pas tellement au rendez-vous. Les gens ne souhaitent plus trop habiter dans les studios, il n'y a plus beaucoup de preneurs. Et donc, pour répondre à votre question sur la réversibilité, si on se projette sur du long terme et qu'il fallait revoir demain les typologies, ça reste assez simple à retravailler en abattant quelques cloisons pour refaire plus de T4, T5. Alors, on n'y est pas du tout aujourd'hui, puisque aujourd'hui, on est dans un marché de l'immobilier où il y a beaucoup de grandes surfaces qui ont été construites dans les années 60, 70 et 80, et on est encore en pénurie de petites surfaces. Et en plus, on est sur une tendance où...
Ah, ça, c'est mon combat du moment, Nicolas. Je ne suis pas d'accord avec vous, mais parce que je ne suis pas le bon profil. Évidemment, il y a un cas spécifique à Paris.
C'est l'intérêt du débat.
Mais non, mais c'est vrai, parce que moi, je trouve qu'on a lancé tout le monde pour faire de la petite surface. Regardez les trucs découpés, multi-découpés pour les relouer et maximiser le rendement. Et aujourd'hui, vous cherchez des logements familiaux. Il n'y en a pas, quoi. Il n'y en a pas, je suis désolée. Hein. Dans les zones tendues, il n'y en a pas.
Alors, il y en a beaucoup.
Bah, il va falloir les proposer, hein, Nicolas.
Le problème, c'est qu'ils sont occupés, ces logements-là, et qu'il n'y a pas assez de fluidité dans le parcours résidentiel, et que vous avez des grands logements occupés par des gens.
Par des personnes âgées, plus, par exemple.
Exactement, les stats, dont les enfants ont quitté le domicile, mais le logement est toujours occupé.
Non, mais c'est T2, T3, de toute façon, c'est le logement qu'on retrouve le plus en France, c'est T2,
T3. Ouais, mais c'est ça.
Oui, et puis pour aussi faire venir des populations, notamment seniors, dans des résidences intergénérationnelles avec du service. Ça, c'est notre combat de tous les jours. Hein. Je vous le disais, on a 50 résidences aujourd'hui en fonctionnement. On en a une vingtaine en construction et une vingtaine en développement. C'est quand même un combat avec tous les partenaires, à commencer par les élus locaux, hein, qui sont ceux qui nous donnent les permis de construire, qui sont ceux qui connaissent le mieux leur population.
C'est généreux, le permis de construire en ce moment ?
Ça, c'est un autre débat. On pourra en parler après.
Là, le plus dur est passé avec les municipales. Mais...
Pas sûr, je pense qu'il y a encore quelques mois, et puis après, il y a l'élection présidentielle derrière.
Pouf. Et en tout cas, convaincre un senior qui occupe un 4 pièces ou un pavillon de venir dans une résidence intergénérationnelle, dans un 2 pièces ou un 3 pièces, on a quand même un travail de pédagogie important.
Bah on essaie de le faire là. Donnez-moi votre appart, ami senior.
On le fait, on valorise tout ce qu'il y a à côté, mais c'est vrai que c'est pas évident et qu'on aimerait aller plus vite et fluidifier encore plus le parcours résidentiel pour justement libérer des grands logements pour des familles qui cherchent à se loger dans des plus grande surface.
Et il y a cet enjeu, vous parlez de l'enjeu démographique, parce que c'est tout le sujet de votre segment, en fait, c'est l'enjeu démographique. Et on s'étonne qu'on ne fasse plus assez d'enfants, mais si effectivement il n'y a pas l'habitat adapté et au juste prix pour des familles qui voudraient potentiellement être nombreuses, comment voulez-vous qu'elles le fassent, en fait? C'est aussi le serpent qui se mord la queue, donc le sujet, il est là, c'est-à-dire effectivement proposer autre chose que la maison de retraite, qui a quand même très mauvaise presse, ouais. Et pour cause, je ne dirais rien. Pour les personnes âgées, quelque chose qui peut être aussi attractif, quoi.
Oui, il y a quand même une politique du maintien à domicile qui est quand même mise en place par le gouvernement. Ça fait un petit moment que le sujet est sur la table. Si on revient sur les données, la pourcentage de la population des plus de 65 ans, c'est entre 20 et 22% aujourd'hui. L'INSEE s'est projeté sur 2040. On arrivera entre 25 à 27%. Donc c'est vrai que les chiffres sont assez fous. Et c'est vrai que le logement pour nos seniors, c'est plus qu'un enjeu. C'est un véritable sujet.
Oui, mais avec cet enjeu aussi de leur proposer une alternative, en fait, et de justement pas qu'ils restent à domicile, c'est pas méchant, hein, mais qu'ils aient un autre domicile plus adapté à leur âge, et voilà.
Oui, pour que la transition soit moins douloureuse entre le logement historique, familial, ouais. Et puis l'établissement très spécialisé.
Ouais.
Donc ça, c'est tout le cœur du modèle de Maison Marianne, proposer des logements dans lesquels on va pouvoir rester longtemps, de manière adaptée à la fois techniquement, j'en ai parlé avec nos adaptations dans les salles de bain, dans les cuisines, etc., mais aussi au niveau social, avec tout le lien social que nous, on va travailler avec à la fois notre personnel sur place, mais aussi les partenariats que l'on a. On parlait des aides gouvernementales, il y a les collectivités, il y a les départements qui ont la compétence senior, qui, grâce à certains AMI, appellent à manifestation d'intérêt, nous suivent, nous subventionnent pour pousser plus loin l'accompagnement avec un temps individualisé pour ces seniors,
ouais.
Et faire en sorte qu'ils restent chez eux dans des logements de bonne qualité, avec des ascenseurs, etc. 5 ans, 10 ans, 15 ans, et qu'ils arrivent le plus tard possible.
Mais bien sûr, et puis ne serait-ce que psychologiquement, en plus, côtoyer aussi des plus jeunes.
Exactement.
Et puis je crois qu'il y a aussi pas mal d'entraide dans ces résidences-là, avec des parents, potentiellement des papas ou des mamans solo, puisqu'on va boucler la boucle de l'émission, qui peuvent faire garder leurs enfants par des seniors qui habiteraient dans les mêmes locaux. Donc c'est quand même assez intéressant quand même de voir l'intérêt du modèle.
Bon, chacun vient avec ses compétences, ses talents et son envie d'échanger, de partager.
Bah, en tout cas, moi je trouve que c'est assez joli comme image. Et puis en plus c'est plus encourageant encore une fois que la fin des fins, on n'est pas. Bref, je dis ça, je dis rien. Amis seniors, libérez de la place. C'est horrible. Mais non, mais ça peut être sympa. Non, mais vraiment, cet habitat intergénérationnel, on est très loin du cliché en plus qu'on a justement de résidences médicalisées un peu dures. Donc merci messieurs d'avoir pu discuter de ça et peut-être donner envie justement à nos amis seniors et nos amis seuls, pas forcément seniors, avec des enfants ou pas forcément seuls d'ailleurs, de venir peupler cet habitat intergénérationnel.
Oui, investir.
ou investir, bien sûr, appeler Stéphane, n'oubliez pas. Merci à Nicolas Brunet, directeur général de Maison Marianne, et Stéphane Briand, directeur commercial chez Pulsim. Je vous retrouve demain pour un nouvel épisode des Experts de l'Immo sur BFM Business.
Les Experts de l'Immo sur BFM Business.